Je recommence. 1 Corinthiens, donc 13, 11 à 13. Au demeurant, frères, soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous. Soyez bien d'accord. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous mutuellement par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.
Amen.
Les communautés chrétiennes, frères et sœurs, connaissent toutes des difficultés, des tensions qui peuvent provenir de l'intérieur comme de l'extérieur. L'Église de Corinthe, au 1er siècle, était particulièrement touchée par des divisions et des rivalités. Et la nôtre, au 21e siècle, ne saurait échapper, bien sûr, à des tourmentes. Il est donc important, en Église, de nous encourager, de nous soutenir, de prier les uns pour les autres, de travailler, comme dit Paul, à notre perfectionnement, pour que nous puissions demeurer dans la vérité et la paix, dans le miroir de la parole de Dieu. Paul vient de consacrer 13 chapitres à tenter de résoudre les problèmes de ses amis de Corinthe, sans compter la première aux Corinthiens encore. Mais il y avait des problèmes à Corinthe, et Paul a été obligé de se fâcher, de faire preuve de fermeté, de menacer. « Si je reviens, j'agirai sans ménagement. » Il l'a fait, bien sûr, avec affection. C'est en pleine difficulté et le cœur serré que je vous ai écrit parmi bien des larmes, non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez l'amour débordant que je vous porte. Ne nous étonnons donc pas de voir Paul, avec les versets que nous avons lus, terminer la plus rude de ses lettres par la plus belle des bénédictions. Nous aimerions à notre tour, vivre la communion fraternelle, paisiblement, joyeusement, comme Paul y invite les Corinthiens. Alors la sérénité de cette fin de lettre, lettre rude, la sérénité de cette fin de lettre est pour nous un encouragement. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alors nous allons commenter ce matin cette dernière magnifique formule de Paul. Commençons par la communion du Saint-Esprit. En ce dimanche qui suit la Pentecôte, cela s'impose de commencer par cette participation à la puissance de l'Esprit du Seigneur par laquelle Paul appelle les Corinthiens à être unis. Cette participation, cette communion qu'il appelle sur la communauté chrétienne. Pour la vie de l'Église, finalement, c'est là que tout commence. L'Esprit. L'Esprit qui nous fait participer à la vie de Dieu. Cet Esprit qui nous ouvre à la foi et qui nous fait naître à la vie nouvelle en Christ. L'Esprit l'avait fait en faveur des premiers apôtres. Il a accompagné leur témoignage. L'Esprit a rassemblé la première communauté de croyants au jour de la Pentecôte. À ce moment-là, nous dit la Bible, ceux qui accueillirent la parole de Pierre reçurent le baptême et il y eut environ 3000 personnes qui se joignirent à eux. L'Esprit a inspiré la prédication et la réception de l'Évangile au cours des siècles. Il a uni au Christ vivant des millions de personnes et il continue à le faire. Il a semé dans leur cœur une espérance inouïe. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La foi, l'espérance et l'amour, don de l'esprit, tournent nos cœurs vers le Christ et vers les autres. Paul écrit que l'amour est le plus grand don du Saint-Esprit, bien plus important que les langues, les guérisons, la connaissance ou la prophétie dont se vantaient certains jeunes chrétiens de Corinthe. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel amour. L'amour, l'agapé dont Paul parle ici, n'est pas cet amour motivé par nos désirs personnels de posséder ou de briller, motivé par nos convoitises ou même par nos attirances charnelles. Cet amour, nous l'avons vu à l'étude biblique chez Courte la dernière fois, cet amour, c'est l'amour de Jésus. Uniquement l'amour de Jésus. Il est la vie en nous du Christ, crucifié et ressuscité, de celui qui a tout donné pour nous sauver. Et lui seul, Jésus, l'amour de Jésus, est capable de susciter une véritable communion fraternelle, de faire naître, en d'autres termes, l'Église de Jésus-Christ. Cette Église, frères et sœurs, notre Église, n'est pas seulement un rassemblement de croyants, même si ce matin ça fait plaisir d'être rassemblés si nombreux en ce lieu. Cette Église, ce n'est pas un club des amis de Jésus, ou bien une association des sympathisants de l'Évangile. Cette Église, c'est une communauté de frères et de sœurs appelés à vivre dans l'Esprit de Jésus. Pardonnez-moi l'affreux barbarisme, mais ça dira quelque chose à ceux qui ont bien retenu ma prédication d'il y a 15 jours. Ils sont tout pardonnés si ce n'est pas le cas. Nous sommes appelés à paracléter. Oh là ! C'est le terme qui est employé dans le texte de la deuxième aux Corinthiens. À paracléter, c'est-à-dire à vivre du paraclet. Et vous vous rappelez, c'était le nom que Jésus donnait à l'esprit consolateur, à l'esprit défenseur qui devait venir. Donc paracléter, ça veut dire se consoler, se réconforter, se soutenir, être là les uns pour les autres, par la seule grâce de cet esprit que Jésus appelait le paraclet. Si vous dites en sortant d'ici que bon, à l'église on a paraclété, je pense que le témoignage va faire flop. Hein. Mais c'était juste pour vous rappeler ce terme que nous avions découvert il y a 15 jours. En conséquence, cette église qui vit de l'esprit consolateur, défenseur de l'esprit paraclet, cette église vit l'unité. Paul demande aux Corinthiens d'être bien d'accord, du moins c'est ainsi que traduit ma traduction. En fait, ça ne veut pas dire de penser la même chose. Nous ne pensons pas tous la même chose et sur bien des sujets. Mais cela veut dire de vivre en harmonie, en Christ, en se préoccupant les uns des autres. Bien sûr, nous devons quand même penser la même chose au niveau de la foi, hein, nous sommes d'accord. Les critiques, les calomnies, les médisances seraient chose facile, et nous y sommes tous facilement prompts. Et l'Église de Corinthe en a été malade de cela. L'unité de l'Église, sa vie dans la communion du Saint-Esprit, ne saurait s'édifier sur des attitudes destructrices. Je connais une grande communauté chrétienne dont les membres s'engagent à ne jamais garder un ressentiment contre un frère ou une sœur, à ne jamais parler derrière son dos, avec la conviction que les relations dans l'Église sont des liens spirituels, c'est-à-dire fondés dans l'Esprit de Jésus, des liens spirituels fondés sur la confiance et la volonté de toujours pardonner. Passons à la deuxième expression de Paul, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est une grâce, vous l'avez compris, c'est un cadeau de pouvoir vivre ainsi en Christ. L'Église ne peut devenir une communauté, une communion du Saint-Esprit, que par grâce, que par cadeau de Dieu. Et vivre en paix, ce n'est pas une performance de gens pieux, c'est un don de la part de celui qui veut régner sur nos existences. Or, l'Esprit de Jésus peut régner dans nos vies parce que tout obstacle à sa venue a été enlevé, non par nous, mais précisément par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Pour Paul, c'est absolument fondamental. C'est toute sa vie. Il est intéressant de compter dans toutes ses épîtres, mais par exemple ici, dans la deuxième aux Corinthiens, combien de fois il emploie simplement le mot « Christ » dans cette lettre. Je me suis amusé à le faire. Près de 50 fois. Le Christ est vraiment le centre de toute son argumentation, de toute sa vie, de toute sa prédication. Paul ne veut être rien d'autre qu'un prédicateur et un serviteur de Jésus-Christ. Cette grâce du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est le don immérité dont Paul lui-même a fait l'expérience. Le persécuteur de l'Église a été pardonné, sauvé, relevé, ressuscité par celui, Jésus, qu'il pourchassait avec un zèle fanatique. Paul était pécheur, il était ennemi du Seigneur, mais Dieu désormais, par la grâce de Jésus-Christ, ne regarde plus son péché. Paul était esclave de son orgueil, il en a été libéré en devenant justement serviteur du Christ. Il était faible, or il le dit dans cette lettre au chapitre 12, il était faible, or c'est précisément dans ses faiblesses que Dieu a fait reposer sa puissance. Il marchait dans les ténèbres, vers la mort, mais Dieu a fait briller pour lui sa lumière. Il se sait déjà ressuscité, vainqueur avec le Christ. Paul se perdait loin du Seigneur. Il croit désormais fermement que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il vivait dans la crainte de la mort et du jugement. Il est maintenant habité par l'assurance de sa résurrection et de la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, même les commandements de Jésus, pourtant si difficiles à observer, à qui te demande, donne, aimez vos ennemis, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, et vous savez que j'en passe plein là. Même ces commandements sont une grâce. Ils participent à notre libération du péché et ils en sont en même temps les fruits. Toutes les paroles de Jésus sont des invitations à lui appartenir, parce que c'est lui qui nous accueille. Des invitations à le suivre, à exister pour lui et bien sûr et surtout avec lui. C'est donc bien encore la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste quand Paul dit aux Corinthiens « Vivez en paix ». Vivre en ressuscité, vivre en réconcilié, conduit à vivre en paix. Plus rien ne saurait nous diviser, mettre des barrières entre nous, puisque Dieu, en Christ, nous embrasse tous dans son amour. Dans son amour, précisément. L'amour de Dieu, maintenant. Communion du Saint-Esprit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et maintenant, l'amour de Dieu. Alors, vous allez peut-être me dire que c'est quand même un peu banal, dans une prédication, d'indiquer que l'on va parler de l'amour de Dieu. Moi, je dis toujours, être pasteur, c'est le plus beau métier du monde, on ne fait que parler d'amour. C'est vrai. Et puis, tous les cultes proclament l'amour de Dieu. Mais que dit la Bible quand même quand elle déclare que Dieu est amour? Après tout, qu'en savons-nous? Qu'en savons-nous? Ce n'est pas évident. Et vous savez très bien que beaucoup nous le font remarquer, que ce n'est pas du tout évident quand on écoute les informations, quand on observe les malheurs autour de nous, quand soi-même on expérimente personnellement la réalité de la souffrance ou pour nos proches. Si Dieu est amour, pourquoi tant de mal? On pourrait dire que la création, surtout dans ces belles journées de printemps, presque d'été, la beauté de la nature nous parle de l'amour de Dieu. La science même devrait s'émerveiller devant la perfection du monde et de ses lois. Et je connais des scientifiques qui l'ont fait, qui le font. On pourrait répliquer, cependant, qu'est-ce qu'on pourrait répliquer ? Eh bien, que dans la nature aussi règne le mal, les serpents, les crocodiles, les moustiques. Vous n'avez jamais pensé, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de Dieu quand il a inventé les moustiques ? Hein, franchement. Les meurtres des carnivores pour survivre, les tremblements de terre, les maladies. Hein, le mal est aussi présent dans la création. Et en réalité, frères et sœurs, on fait dire ce que l'on veut aux étoiles, aux fleurs ou aux petits oiseaux. Dans le domaine religieux, le culte de la nature a engendré, vous savez quoi ? L'idolâtrie. C'est ce que dit Paul. Paul écrivait : « Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. » Romains 1, 23. Alors, on pense bien sûr aux dieux païens de l'Antiquité ou aux dieux de certaines religions aujourd'hui. On pense par exemple aux dieux égyptiens où il y a plein d'animaux. Mais aussi, on peut penser à tout ce que notre société actuelle étale en spiritualité prétendument naturelle. J'en ai encore eu des exemples cette semaine qui ne sont en fait que des retours au paganisme. En fait, tout cela, frères et sœurs, ne nous dit rien de l'amour de Jésus-Christ. De l'amour de Jésus-Christ, vainqueur du péché et de la mort. L'abaissement du Fils de Dieu avec le don de sa vie et le pardon de ses ennemis, frères et sœurs, est précisément contre nature. Mon père, qui était habité par une distinction très britannique, mais qui avait parfois aussi un langage assez cru, disait « La loi de la nature, c'est tu boufferas ton prochain. Et la loi de l'évangile, c'est tu aimeras ton prochain. » Je trouvais que ce n'était pas si mal trouvé que ça. Le peuple élu de l'Ancien Testament avait fait une expérience de l'amour paternel de Dieu créateur et source de vie. Voyez par exemple Ésaïe qui s'écriait « Seigneur, notre Père, c'est toi, c'est nous l'argile, on l'a chanté tout à l'heure, c'est toi qui nous façonne. » Dieu, dans l'Ancien Testament, était déjà vu, bien sûr, comme le bienfaiteur des siens qui prodiguait nourriture et protection. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Il était le libérateur de la Pâque, qui avait délivré son peuple de l'esclavage en Égypte et qui accomplirait les promesses des prophètes. Et malgré les révoltes de son peuple, il renouvelait sa fidélité. Mais nous croyons, nous avons reçu la révélation que c'est en Christ que s'est manifestée la plénitude, l'universalité, l'éternité de la fidélité et de l'amour du Père. En fait, nous découvrons que Dieu est amour en Jésus-Christ. Et justement, parce qu'il a pris sur lui la souffrance du monde, au cœur de cette souffrance, Dieu a révélé la plénitude de son amour. Jésus disait, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Le Père a donc révélé son visage de tendresse en venant jusqu'à nous, en s'incarnant, comme on dit, jusqu'à prendre chair humaine en son Fils, jusqu'à, dit Paul, naître d'une femme, à avoir une mère, comme chacun d'entre nous. Il n'est pas passé à travers Marie comme à travers un tuyau. Il est né d'une mère humaine. Il est allé jusqu'à vivre les dépendances de l'enfance et toutes les difficultés d'une vie terrestre. On nous dit dans la Bible qu'il avait soif, qu'il avait mal, qu'il pleurait. Il est allé jusqu'à subir la haine et le rejet, jusqu'à la terrible mort de la croix. Frères et sœurs, il l'a fait pour nous dire son amour, pour le vivre vraiment jusqu'au bout. On n'aime pas de loin, Dieu ne nous aime pas depuis son petit nuage. Il nous aime dans notre chair, au plus proche de nous-mêmes. Et il nous aime jusqu'au bout. Il est venu vivre avec nous et pour nous. Son abaissement, ses souffrances, son pardon, sa mort et sa résurrection constituent la révélation et la manifestation de la plénitude de l'amour de Dieu. Dieu nous aime en venant à notre rencontre, en s'unissant à notre humanité, et il continue de le faire avec la volonté de restaurer son alliance, sa communion avec tout être humain. Nous croyons et nous proclamons en tant que chrétiens que Dieu nous a parlé par son Fils. Dieu est Père parce qu'il a bien voulu par grâce être Fils au milieu de nous. L'amour de Dieu, ce n'est rien d'autre que le salut en Jésus-Christ. Et si nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs, si nous pouvons lui dire notre Père, c'est parce que Jésus a bien voulu faire de nous ses frères et ses sœurs. Alors, Paul rayonne de joie dans ses lettres, même quand il se met en colère. Il rayonne de joie quand il annonce l'amour de Dieu et sa grâce en Christ. Aussi peut-il exhorter les Corinthiens à être dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je me rappelle, nous avons chanté ça il n'y a pas si longtemps. Oui, Paul nous exhorte à être dans la joie. La joie combat, frères et sœurs, nos attitudes si facilement déprimées. Avec la reconnaissance, avec l'action de grâce, elle est la seule réponse digne de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ. La joie est le plus authentique témoignage de notre foi que nous puissions offrir à notre société désespérée. J'ai trouvé cette citation de Mère Teresa qui disait que notre gaieté est le meilleur moyen de prêcher le christianisme. Tout un programme, hein ? Concluons. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Paul aime bénir et glorifier Dieu. Vous savez, la plupart des formules de bénédiction que nous utilisons, en tout cas que j'utilise au début du culte ou à la fin des cultes, nous viennent de l'apôtre Paul. Il aime bénir. Et cette bénédiction, dans 2 Corinthiens, est précédée d'une autre formule d'encouragement. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un vœu, Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une exhortation, c'est une certitude pour tous les jours, écrite, vous le voyez, à l'indicatif, j'ai vérifié, exprimant ce que nous pourrions appeler un futur immédiat. Voilà, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous, frères et sœurs. Il est maintenant avec vous, et cette paix, cet amour sera avec vous tous les jours de votre vie en Christ. La paix de l'Église et des chrétiens repose sur Dieu seul. Il ne s'agit pas de l'acquérir, mais de l'accueillir, de la recevoir. Elle est donnée en Christ. Cette paix n'est pas seulement une bonne entente. Ouais, salut mon pote. La joie n'est pas seulement un gentil sourire. Le saint baiser dont parle Paul ici ne consiste pas à se faire une petite bise. Paix, joie, gestes d'affection fraternelle sont ici des rayonnements, des surgissements de la vie du Christ ressuscité et sauveur au milieu de nous. Vous le voyez, frères et sœurs, nous sommes invités à vivre ensemble, par la communion du Saint-Esprit, déjà une manifestation du royaume de Dieu. Amen.
Amen.
Nous te bénissons, Seigneur, et particulièrement en ces temps proches de la Pentecôte, pour le don de ton Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, qui est l'Esprit qui nous permet de vivre dans sa résurrection, qui nous permet déjà de vivre quelque chose de ta vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous le donnes. Et nous te demandons, Seigneur, vraiment d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos vies à ta présence au milieu de nous, à ta présence au plus intime de nous-mêmes. Nous t'implorons pour que tu nous apprennes jour après jour à recevoir ta paix, à vivre cette paix et à recevoir aussi cette joie qui vient de toi et que nul ne pourra jamais nous ravir. Amen.
Amen.